BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderi.
Tout pour investir, c'est parti, nouvelle édition. Bienvenue à toutes et à tous. Vous nous écoutez en direct à la radio, à la télé, sur le web, bien sûr, en podcast, en replay sur bfmbusiness.com. N'hésitez pas à réécouter toutes nos chroniques. Encore une grosse édition au cœur de l'actu aujourd'hui. Géopolitique, pétrole, dette privée. Beaucoup de problématiques qui gardent les marchés sous pression. Le rendez-vous des banques centrales aussi, toute la semaine, autant de sujets qu'on va déchiffrer avec Olivier Le Chevalier de DeftEdge, Félix Baron du Club des investisseurs indépendants, arbitrage de court terme avec Gilles Santacreux de boursicoté.com, votre plan de trading personnalisé pour la journée. On vous le dit, on vous le redit, l'enjeu de ces prochains mois, ce sont les taux, oui, les taux obligataires qui s'agitent. Est-ce que c'est pas le moment, justement, de jeter un petit coup d'œil sur ce que donnent les fonds obligataires? Focus tout à l'heure avec Arnaud Gian de BlackRock, spécialiste des fonds, spécialiste des taux aussi, double expertise. Et puis, votre patrimoine au quotidien, comment peaufiner sa transmission avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions budgétaires. Gros plan sur le sujet tout à l'heure avec CG Patrimoine. Enfin, un grand plan aussi sur le marché de l'art. En fin d'émission, on souffle un petit peu, on prend un peu l'air avec la maison Agut. Et gros plan sur l'art support surface. Vous allez découvrir un petit peu ce mouvement étonnant et qui a la cote sur le marché. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par email direct à bfmbusiness.fr, nous envoyer un SMS au 732-16, vous tapez le mot-clé business suivi de votre message, évidemment Twitter, LinkedIn pour nous poser vos questions pendant l'émission. Le reste de l'actualité du jour, le rendez-vous le plus attendu dans le secteur de l'IA, c'était cette nuit la fameuse Nvidia GTC à San José en Californie, avec comme chaque année Jensen Huang qui a donné le ton. Le patron d'Nvidia nous dit tout simplement qu'il va encore doubler ses ventes l'an prochain, 1000 milliards de dollars de demandes pour ses puces en 2027. L'actualité au Moyen-Orient, le pétrole a repris presque 5%, on est à 102,84$ en ce moment, avec des frappes de toutes parts, l'armée israélienne notamment qui dit avoir lancé une nouvelle vague du côté Iran et en simultané contre le Hezbollah au Liban. L'Iran qui en face continue sa réplique sur les pays du Golfe, des explosions entendues à Doha et à Dubaï. Un tanker aussi a été touché à l'entrée du détroit d'Ormuz côté Golfe d'Oman. Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense cet après-midi sur la situation en Iran et au Moyen-Orient, où la France à ce stade se concentre dans la défense du ciel de ses alliés, a déployé 24 rafales en Jordanie et aux Émirats Arabes Unis, selon une information du journal L'Express. Il y en a 10 en temps normal sur ces deux pays. Ils décollent et rentrent au bout de 3 quarts d'heure. Leurs munitions sont épuisées, assure une source dans l'hebdomadaire. Bon, et puis, journée spéciale, c'est la conférence annuelle d'Euronext. Aujourd'hui, un grand moment au pavillon Gabriel, avec la fine fleur de la finance du pays autour de la bourse pan-européenne. Guillaume Paul est notre envoyé spécial là-bas. Enjeu numéro 1, évidemment, cette année, la consolidation d'un marché des capitaux uni en Europe. Mais c'est l'occasion aussi de revenir sur les grosses problématiques du moment. Alors, notamment celle du crédit privé, la menace éventuelle que pourrait poser la dégradation des conditions financières sur ce segment, notamment en ce qui concerne le marché américain et l'intelligence artificielle. Est-ce un danger systémique? Guillaume Paul, qui était tout à l'heure avec Dominique Sénéquier, le patron du grand fonds d'investissement Ardian. On l'écoute.
Avec Dominique Sénéquier, bonjour.
Bonjour.
Présidente et fondatrice du fonds Ardian, qui gère, on le rappelle, quelques 200 milliards.
200 milliards.
200 milliards, voilà pour la précision. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, la question est de savoir comment vous regardez cette crise actuelle sur les marchés, même si on assiste à une relative résilience. Comment est-ce que vous regardez la situation actuelle, Dominique Sénéquier?
Comme toutes les autres crises, il y en a eu depuis 40 ans, il y en a eu au moins 7. 3 guerres du Golfe, une subprime crisis qui a été de loin la plus forte, qui s'appelle d'ailleurs la Great Financial Crisis, puisque les marchés, vous souvenez, ont fait moins 66% aux États-Unis, ce qui est du jamais vu. Et ensuite le Covid, et ensuite la guerre d'Ukraine avec l'augmentation du prix du gaz. Donc nous sommes toujours en train d'investir au milieu de crise. Donc on les prend en compte. On prend en compte que finalement les marchés ne montent pas toujours comme on le croit, qu'ils ont monté beaucoup. Je regardais en fait, c'est très intéressant, en 16 ans, ils ont quand même monté de 12% taux annuel malgré les crises, parce qu'il y en a eu en 16 ans. Et donc il faut continuer, il faut être conservateur. Il ne faut pas payer trop cher, il ne faut pas mettre trop de leverage et il faut diversifier les portefeuilles. Ce sont des règles de base dans la finance.
Donc on assiste aujourd'hui, c'est la superposition des crises. Alors, à côté de ça, il y a beaucoup d'inquiétudes. Crise ou pas crise pour vous autour de la dette privée? On a vu beaucoup de mouvements du côté de grands acteurs. Je pense à BlackRock, je pense à Bluehole, je pense à Morgan Stanley. Est-ce qu'on en est pour vous au début d'un simple dégonflement en bon ordre autour de la dette privée?
Alors, il y a quand même eu deux sinistres, hein, vous le savez, deux gros sinistres, First Brand et Tricolore. Les deux, ça a quand même fait un petit milliard ou un peu plus. Bon, ça déjà, ça fait de la presse, excusez-moi, ça fait des nouvelles et ça ne rassure pas les clients. Bon, alors ensuite, il y a des manœuvres malheureuses par Bluehole d'avoir voulu fusionner deux fonds pour donner de la liquidité aux clients. Et puis finalement, ça fait un peu de suspicion, donc ils sont revenus en arrière. Défaut de communication et ils le payent très très cher parce que leur titre est à moins 60%, je crois, en 6 mois. Donc, si vous voulez, il y a une hyper réaction des marchés par rapport à une crise de la dette privée qui n'est pas encore confirmée. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des retraits plus importants parce que les clients ont peur, parce qu'on fait énormément de mauvaise presse là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas faillite non-stop des compagnies de software. Il n'y a pas, vous voyez ce que je veux dire.
Et quand vous entendez les parenthèses de pensée que certains commencent à faire avec la crise des subprimes de 2008, la petite phrase aussi de Jamie Dimon sur les cafards, rappelez-vous, il y a quelques mois, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça participe un peu de ce climat de défiance?
Les subprimes, c'était une crise beaucoup, pour l'instant, d'accord, à ce jour, la plus grande crise depuis 40 ans, de très loin. Et pourquoi? Parce que les tranches qui leverageaient les subprimes étaient mises dans les money market funds. Et ça, c'est très important. Et ils étaient distribués par les banques, et donc on a obligé les banques des money market funds, normalement ils doivent garder le capital, et ils doivent être liquides. S'ils ne gardent pas le capital et ils ne sont pas liquides, c'est plus des money market funds. Et donc, ils ont été obligés d'être reconsolidés dans les banques. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On ne pense pas que les tranches de crédit corporate qui ont été mises, en tout cas dans des mid-cap companies, je ne parle pas de Coca-Cola et de ce genre d'entreprise, on n'a pas dit encore qu'ils avaient été mis dans des money market funds. Donc, je ne pense pas, moi, mais peut-être je me trompe. Ça devrait impacter plus, disons, les clients particuliers qui ont pris des private credit funds et qui ont peur, donc qui se précipitent, et là, normalement, on leur a pas assez expliqué ou mal expliqué que c'est 5% par trimestre de redemption, de remboursement. Et donc, s'ils demandent 10%, forcément, il y a un problème de liquidité sur le marché. Je suis pas certaine que... Il faut toujours prendre des précautions dans les prévisions, qu'on va atteindre l'intensité de la crise des subprimes.
Dernière question qu'on voulait vous poser, c'est bien sûr, ça sera l'objet de cette réunion aujourd'hui du côté d'Euronext, c'est comment est-ce qu'on rattrape notre retard en termes de private equity par rapport aux Américains? Comment est-ce qu'on rattrape ce retard?
Bon, écoutez,
on brise le plafond de verre.
Oui. Bon, ils ont commencé plus tôt que nous, d'abord. Oui. Hein, ils ont commencé dans les années 70. Nous avons commencé plus tôt avec 10 ans, 10, 15 ans après. Ça, c'est la première chose.
Il y a plus d'épargne en Europe.
Oui, il y a beaucoup plus d'épargne en Europe, mais ils ont des fonds de pension. Nous n'avons pas les fonds de pension, nous avons des réglementations très sévères sur les quotas que peuvent, par exemple, investir les compagnies d'assurance. On a aussi des quotas importants dans les fonds retail qui sont adossés aux contrats d'assurance vie. Donc, tout ça fait une contrainte sur l'investissement du private equity. Mais néanmoins, l'industrie, vous avez quand même plusieurs grands gérants cotés en Europe, comme EQT, comme CVC. Bon, et les Américains, ils ont perdu 40-45% de leur valeur au cours des 6 derniers mois. Donc, on a largement le temps de consolider nos positions en Europe et on a déjà des champions, dont Ardian.
Donc on peut apparaître à terme finalement comme un pôle de stabilité et de croissance.
Ah oui, moi j'en suis convaincu. Moi j'en suis convaincu. On a besoin d'un peu moins de réglementation parce que la CSRD, la C3D, machin, c'était, ça s'appliquait à des sociétés beaucoup trop petites, c'était trop rapide. Et l'Europe, on l'a vu, a poussé ses réglementations, mais il y a d'autres réglementations à aussi pousser. Et je pense que l'Europe est quand même, au niveau, disons, stabilité, hein, une zone très intéressante pour investir. On a des très grands patrons, on a des très grands chercheurs, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses.
Ça sera le thème de cette journée ici à Euronext. Merci beaucoup Dominique.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci.
Dominique Sénéquier, patronne d'Ardian au micro de Guillaume Paul, qu'on retrouve à la conférence annuelle d'Euronext toute la journée. Allez, on passe au tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Et un CAC 40 qui se porte bien. On a frôlé les 8000 points il y a quelques minutes. 7975. On est en hausse de 0,5%. Le reste des places européennes plutôt bien orientées avec un Eurostock 50 en progression de 0,2%. Plus 0,06% pour le DAX à Francfort. Tiens, Madrid, plus 0,95%. Donc une tendance quand même assez positive. C'est vrai qu'on a quelques éléments à arbitrer, mais au milieu d'une semaine extrêmement mouvante, évidemment. Entre géopolitique et réunion des banques centrales. Également, Stellantis, plus forte hausse, plus 2,9. On est à 5,87 €. On a Total Energy qui gagne 1,95% à 73,81 € du fait de la fermeté des cours du brut. On y reviendra dans quelques minutes. 102,82 $ pour le baril de Brent en ce moment. À la baisse, on retrouve le secteur du luxe qui est quand même mal orienté. C'est Kering d'ailleurs qui signe la plus forte baisse du CAC, moins 1,58 € à 245,85 €. Et les semi-conducteurs qui subissent des prises de profit avec donc la réunion de Nvidia qui était très attendue, mais aussi des prises de profit après de très belles performances signées hier. On a notamment STMicro qui perd 1,2% à 29 €. Tout de suite, on déchiffre l'actualité du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Avec Olivier Le Chevalier de DeftEdge. Bonjour Olivier.
Bonjour Antoine.
Et Félix Baron du Club des investisseurs.
Bonjour Antoine.
Merci d'être en plateau tous les deux. On vient d'entendre Dominique Sénéquier, la patronne d'Ardian, sur la problématique de la dette privée. Alors, on sait que c'est quelque chose finalement d'assez contenu plutôt du côté américain et en particulier du côté des investissements dans les logiciels. On a BNP Paribas ce matin qui dit globalement le problème est vraiment circonscrit, la dette privée européenne, il n'y a pas de risque de contagion, etc. Bon, malgré tout, on voit que ça rentre dans le wording, dans le flot de sentiments de marché là en ce moment. Olivier Le Chevalier, est-ce qu'il y a de quoi quand même rester prudent sur cette espèce de bulle, enfin de black box, hein, d'espèce de boîte noire?
Effectivement, non, il faut rester prudent. De toute façon, ça vient toujours outre-Atlantique. Hein. Il y a la première sirène, l'alarme, etc. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il faut rester prudent. Comme elle le disait bien, hein, c'est surtout sur le secteur du soft, notamment, qui a été surévalué entre 2019 et 2022. Hein,
c'est presque une bulle à retardement, en fait. C'est assez curieux.
En fait, le côté agréable du software, c'est-à-dire que vous allez avoir des revenus qui vont être récurrents pendant des années, parce que vous allez vous abonner, par exemple, peut-être vous prenez un abonnement SAP ou Oracle, etc. Vous n'allez pas contracter pour un an. Donc, c'est des projets qui sont longs en termes de développement. Donc, vous allez vous abonner sur ces sources au minimum 5, 7, 8 ans. Et donc, voilà, ça fait des revenus qui sont relativement stables pendant des années. Et du coup, évidemment, si vous n'avez pas la dynamique de marché qui vous permet aussi de gagner des parts de marché suffisantes, donc vous avez eu un effet de levier où vous avez eu beaucoup plus de dettes qui ont été levées. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que les ratios, ce qu'on appelle surtout le ratio de couverture qui est l'ICR, qui est en fait la partie EBIT sur remboursement de taux d'intérêt, en fait, c'est le résultat opérationnel. Bon, on a vu qu'il tournait autour des 1,5. Donc, normalement, vous devez être à 2. C'est une zone de vigilance. Quand vous êtes à 4-5, vous êtes bien, c'est-à-dire que vous êtes sain. Et donc là, en fait, on a eu pas mal d'alertes où on disait que ces ratios tombaient à 1,5 en moyenne. Et donc, c'est pour ça que ça met de la tension, en fait, sur ces marchés. Après, ce qui se passe naturellement d'un côté, outre-Atlantique, en général, c'est un peu répliqué quand même en Europe. On a quand même tendance à faire... quand même la même chose. Donc je pense que oui, on reste quand même attentif et se dire qu'il n'y aura pas de contagion à minimum. Vous avez eu du stress, ils ont retiré ils retiraient pas mal, 10 milliards, hein, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire et de communiquer dans la presse. Heureusement qu'il y avait des amortisseurs, vous pouvez pas retirer effectivement tous vos fonds immédiatement, mais il s'agit de faire attention et que le stress qui est opéré sur les logiciels outre-Atlantique, on l'a aussi en Europe.
Ouais, c'est-à-dire qu'en plus,
difficile de vendre.
Ouais, dans un marché où, de toute manière, on est vraiment assailli par les facteurs techniques, les marges à la vente, les appels de marge, ceci, cela, des fois, on aimerait bien vendre des actifs ou des lignes de crédit qu'on a pour pouvoir combler les trous sur d'autres classes d'actifs. Et là, on ne peut pas.
C'est exactement. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, l'effet un peu pervers, là, juste pour compléter pour la partie dette là, des privés, c'est-à-dire comme ils n'arrivent pas à rembourser, en fait, ils la reportent et ils la remettent dans la dette. Donc, en fait, la bulle augmente aussi en permanence.
Bon,
donc
voilà. C'est vraiment à guetter. Félix Baron, on va quand même se consacrer avec vous aux chiffres du jour. Les 1000 milliards de dollars de promesses de commandes là, de Jensen Huang. Bon, c'était ces dernières heures avec la fameuse réunion Nvidia qui était très attendue. Vous nous dites 1000 milliards de promesses. C'est un petit peu comme au Téléthon, c'est les dons, les promesses de dons. Ouais, voilà, 1000 milliards, c'est un chiffre qui plaît beaucoup au marché.
C'est un chiffre déjà que personne, en termes de chiffre d'affaires, personne ne pèse 1000 milliards. Hein. La première société, elle est Walmart, et à peine à 697 milliards de dollars. Vous avez peut-être Saudi Aramco et Amazon derrière. Et on pourrait le comprendre, parce que c'est de l'énergie ou de la grande distribution. Vous parlez à énormément de monde. Nvidia a quelques centaines, quelques milliers de clients, c'est tout. Ouais. Mais quand Jensen Huang annonce quelque chose, c'est généralement pas du vent. Et en fait, derrière ce chiffre, alors qui représente donc soit des carnets de commandes, soit des revenus, hein, ils ajusteront fin 2027, c'est quand même dans moins de deux ans. Derrière ce chiffre, il y a une révolution matérielle, une révolution dans le hardware qui est comparable pour moi à la révolution au passage de la fonte vers l'acier dans la révolution industrielle. Sauf que là, on n'est pas 150 ans avant, mais je peux vous dire, ça aurait été pratique de savoir qui allait profiter du chemin de fer, qui allait profiter de tout ça, d'être dans ces petits papiers-là. Ce qu'il y a, c'est que ces 1000 milliards, ils étaient estimés à 500 milliards il y a 6 mois. Ouais. Donc on est en plein dans la fameuse loi de Moore où, en gros, la productivité double tous les 18 mois. Sur quoi repose cette prédiction de Nvidia et de Jensen Huang? Eh bien, c'est que vous avez un premier moteur, on en a déjà parlé ici, c'est le fameux modèle Blackwell. Aujourd'hui, Blackwell, c'est la principale architecture de puissance de calcul de Nvidia. Donc, vous mettez les puces sur les racks et vous installez ça chez les géants du cloud. Donc, quand vous êtes en déploiement massif chez les géants du cloud, avec des Amazon Web Services, avec des Oracle, avec des Microsoft, etc., forcément, on comprend que c'est facilement des contrats à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards. Donc, c'est un premier moteur vers les 1000 milliards. Deuxième moteur, le vrai turbo, c'est la nouvelle architecture qui a été présentée, le fameux Vera Rubin. Et là, avec les puces Vera Rubin, vous allez diviser par 10 le coût du token. Qu'est-ce que c'est, très simplement?
Le fameux token.
Un million de tokens, c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 à 3000 conversations que vous avez avec votre IA. Une conversation complète avec une dizaine de questions. Un million de tokens, ça coûtait 5 dollars il y a 6 mois, ça coûte aux alentours de 1 dollar aujourd'hui. Et donc, Nvidia annonce de diviser ce prix par 10. On est vraiment dans cette loi de Moore dont je vous parlais. Et comment ils arrivent à réduire ce coût du token? Avec des nouvelles puces, toujours les R100, mais cette fois en gravé en 3 nanomètres. Gardez ça à l'esprit, parce que nous, on a des bons graveurs de puces quand même en Europe.
Hein. Un certain nombre.
SML, notamment.
SML, oui.
Et aussi grâce à une nouvelle mémoire vive. J'ai parlé de la RAM plusieurs fois, les HBM4. Et les HBM4, ça nous fait penser à Micron ou à Skynix.
Skynix, ouais.
Le troisième propulseur vers les 1000 milliards, c'est Open Cloud. Là, c'est la révolution agentique de l'IA. C'est-à-dire, on est passé d'une IA qui prédit le prochain mot, vraiment sur cette fameuse matrice de calcul de probabilité, à une IA qui va réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est très important. OpenClaw, Nvidia l'explique un peu comme si c'était l'OS, donc le système d'exploitation, le Windows pour les plateformes d'IA. Oui. Ça va permettre, en fait, aux agents IA et aux robots d'être beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables. Et ça, c'est un marché de 35 000 milliards de dollars qui s'ouvre pour Nvidia. Et le dernier, et le moins prévisible, c'est l'alliance de Nvidia avec Grok. Donc Grok, qui est quand même l'IA de X, d'Elon Musk. En gros, on savait que Nvidia, ils sont leaders parce qu'ils ont la puissance de calcul, et que Grok, ce qui faisait peur, c'est qu'ils sont extrêmement rapides en inférence, c'est-à-dire en vitesse de réponse. Oui. C'est le moment où l'inférence, où l'IA utilise ce qu'elle a appris pour vous répondre. Eh bien, au lieu de faire concurrence, ils vont faire un partenariat, une alliance avec, donc, je parle beaucoup de matériel de hardware aujourd'hui, créer des racks hybrides avec à la fois donc la combinaison de la vitesse d'inférence de Grok et de la puissance de calcul de Nvidia. Ça va être crucial donc pour que, encore une fois, les agents IA soient extrêmement fiables et rapides. Donc, les implications de toute cette révolution matérielle qui va arriver dans les 18 mois, eh bien, sur le marché actions. Si on réfléchit, avec des nouvelles puces Rubin et des data centers toujours plus performants, ça va chauffer. ça va chauffer, donc il va falloir refroidir. On a déjà parlé des spécialistes de refroidissement des racks et des data centers. On en a un très bon en France, c'est Schneider. Donc Schneider Electric, c'est toujours en croissance. Et puis aux États-Unis, vous avez Vertiv, qui est très bon. Deuxième point, j'ai parlé de la mémoire tout à l'heure. On avait déjà parlé de SK Hynix, le coréen. Le sud-coréen est très difficile à acheter sur les marchés parce que les plateformes ne donnent pas vraiment accès. Mais vous avez Micron Technology qui ne s'arrête pas de grimper.
Il y a SanDisk aussi.
Pardon ?
Le bon vieux SanDisk.
Ouais, il y a ça aussi. Mais vraiment, en termes de croissance et de valorisation, le ratio PER de Micron, qui a quand même pris plus de 100% en 3 mois, reste toujours entre 10 et 12. C'est vraiment pas cher, vu la croissance qui va arriver. Ensuite, vous avez la connectivité optique. Il va falloir, avec ces nouvelles puces, avoir une vitesse de transfert colossale entre des milliers de GPU. Donc là-dessus, c'est Broadcom. Broadcom, pareil, très forte croissance, ça a beaucoup augmenté. Mais bon, les arbres ne montent peut-être pas jusqu'au ciel, mais c'est toujours en croissance. Et puis, la fameuse marche qu'on attend tous, c'est les gains de productivité, enfin un peu d'IA dans les softwares, et ça, ça va être avec OpenClaw. Ouais. Donc, guettez les premières sociétés qui vont commencer à construire de l'IA et de la productivité sur OpenClaw. Et là, déjà, vous avez Palantir, par exemple, ou ServiceNow, et peut-être demain des boîtes comme Salesforce, mais pour l'instant c'est surtout Palantir et ServiceNow. Donc là vous avez le hardware en amont et le software en bas.
Olivier Le Chevalier, là on parle des matières premières du futur, on va parler des matières premières de la bonne vieille économie. Alors déjà le pétrole, visiblement, un petit peu comme l'or il y a quelques semaines, il y a du frottement entre les produits financiers et le pétrole physique. Et d'autre part, du côté des métaux. Moi, je remarque que ArcelorMittal devient le titre le plus réactif sur le CAC 40 à la hausse et à la baisse des cours du pétrole. Et il y a de l'agitation sur les métaux, sur l'aluminium notamment. Et ça, vous pouvez peut-être nous en parler, parce que faut être vigilant là-dessus.
Exactement. Bon, là, c'est vrai que l'actualité est très portée sur le pétrole. Ouais. Et du coup, on se revient en se disant, effectivement, du pétrole, on en a dans toute l'activité économique, que ça soit les acides, le transport, le fret, le plastique, etc. On a vraiment... Et effectivement, le détroit d'Ormuz a fait ressortir aussi qu'il y avait 9% de l'aluminium qui passait en fait par le détroit. Donc forcément, il s'est retrouvé bloqué. Et ce qui s'est passé hier sur les marchés, c'est que la cotation sur le LME a été bloquée en fait pendant 2 heures. Parce que justement,
il y a des métaux de Londres. Ils ont complètement glitché.
Exactement. Donc ils ont complètement bloqué la
cotation.
La cotation. Et donc du coup, c'était pas mal parce que ce qui s'était passé il y a déjà 2 ou 3 semaines sur l'argent qui avait drastiquement, ils n'avaient pas réussi à stopper. Et là, du coup, ils ont stoppé pendant 2 heures les cotations. Donc sur l'aluminium, le zinc et le cuivre, forcément, parce que du coup, c'était les métaux de demain qui vont être utilisés. Donc forcément, il y a du stress qui apparaît sur ces marchés pour tous ces...
Félix, vous restez bien vigilant là-dessus aussi.
Oui, mais je pense que c'est passionnant parce que ce qu'on voit en fait, c'est qu'avec ce blocage sur le détroit d'Ormuz, c'est que, Olivier l'a dit, il n'y a que 9%, 9 ou 10% de l'aluminium qui passe par le détroit, mais ce que les marchés anticipent avec la hausse des cours, en fait, c'est soit une rupture de la chaîne logistique mondiale. Et on a connu ça quand même il y a 4 ans.
Bien sûr.
À la sortie du confinement, il suffisait qu'un bateau se mette en travers du canal de Suez pour que tout le monde panique. Soit la rupture, soit au moins le grippage de la chaîne, et que ça crée des délais sur les bateaux, sur l'approvisionnement. Et en fait, l'aluminium aujourd'hui, en soi, sur la demande, elle bouge pas vraiment. C'est toujours le principe d'un marché en backwardation. C'est plus cher aujourd'hui parce qu'on anticipe qu'on en aura plus difficilement demain.
Ouais, voilà. Effectivement.
Donc, pour répondre à votre question, il faut rester vigilant.
Ouais, vigilant, et puis trier les biais comportementaux de la véritable offre et demande qui font le marché, et c'est bien difficile en ce moment. Messieurs, merci infiniment, c'était passionnant.
Merci
Antoine. Olivier Le Chevalier, DeftEdge et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. On passe aux arbitrages.
Tout pour investir, arbitrage.
Gilles Santacreux, boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
CAC 40, toujours aussi hésitant, même si là on est repassé à la hausse et qu'on gravite légèrement sous les 8000 points. On sent encore beaucoup d'indécision. Du côté des volumes, on revient des séances un petit peu plus normales. Est-ce que vous pensez que c'est un signal intéressant en ce moment?
En fait, les marchés sont en train de se calmer. On a effectivement des volumes qui reviennent dans des zones un peu plus normales entre guillemets et une volatilité aussi qui a fortement baissé. Donc on a testé à de multiples reprises la zone des 7910 points. On tente une cassure d'une zone intermédiaire des 7970 que l'on va surveiller aujourd'hui. C'était le point haut de la séance d'hier. Si on persistait à évoluer au-dessus de cette zone, eh bien il y aurait ce qu'on appelle une rupture de la loi de Dodo qui entretient une dynamique baissière depuis maintenant quelques jours. Donc effectivement, on a des signaux précurseurs, je dirais, d'un rebond éventuel. Alors, un rebond qui, selon mes statistiques, semble toujours assez fragile, mais qui pourrait nous permettre eh bien, de sortir un petit peu d'une zone dangereuse. Je rappelle que la dynamique baissière pourrait reprendre et donc augmenter en volatilité en cas de cassure des 7800 points. Donc, on a un CAC 40, effectivement, qui se porte bien ce matin, alors même que le luxe, et notamment LVMH et Hermès, sont dans le rouge. Donc, c'est à signaler quand on connaît le poids de ces valeurs dans l'indice. Et on a aussi des comportements au niveau du pétrole qui sont assez intéressants, c'est-à-dire qu'à deux semaines de suite, on a eu exactement le même comportement, c'est-à-dire on ouvre sur le pétrole avec un gap haussier après la coupure de la semaine et ensuite les cours consolident légèrement et se calment. Donc on pourrait avoir, je dirais, une configuration d'attente. On a effectivement les banques centrales. On a vu que la Banque centrale d'Australie a relevé ses taux cette nuit. On va être surtout vigilant quant à la sémantique qui sera employée tant par la Fed que la Banque centrale européenne, justement pour essayer de détecter l'impact de ces risques sur les politiques de taux éventuelles. On sait que le pétrole qui remonte peut pousser l'inflation à la hausse et donc changer le paradigme des politiques monétaires. Donc ça va être un petit peu les attentes de cette semaine. En parallèle, on a vu hier au niveau des États-Unis que l'IA semblait se calmer là aussi et repartir à la hausse. Donc pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas encore des signaux positifs, mais on est peut-être en train de préparer le terrain d'un rebond.
Ouais, peut-être au moins que la poussière est peut-être en train de retomber à court terme, on va dire. Un petit mot des cryptos. Tiens, on a Citigroup qui a abaissé, puis alors pas que d'un peu, son objectif de cours à 12 mois. Il passe de 4304 à 3175 $. Ça n'empêche pas l'Ether quand même de bien tenir le coup au-delà des 2300 là ce matin. Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur les cryptos à court terme? Qu'est-ce que vous décelez comme signaux techniques?
Alors, sur les cryptos, on a des signaux techniques. C'est un petit peu comme sur les indices. On a des signaux qui préparent un éventuel rebond. Sur le Bitcoin, par exemple, eh bien, on a une zone à 75 000 $ qui est en train de céder. On l'a testé ce matin et on est en train justement de casser cette zone. Si ça confirme, eh bien, on pourrait avoir un mouvement de retour qui pourrait viser 85 000 $ pour un Bitcoin. Et effectivement, sur les Ethereum, on a un mouvement intéressant. La zone à surveiller, c'était 2170 $ pour un Ether. On a bien cassé cette zone hier. On attendra un éventuel retour au-dessus des 2775 $ pour éventuellement détecter un rebond plus marqué. Et on a aussi d'autres coins, comme par exemple le Stellar, qui envoie un signal de hausse assez important. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit peu comme sur les indices. On n'est pas encore sur un signal de rebond franc, mais on est en tout cas sur une configuration qui est en train de préparer cette éventualité.
Merci Gilles Santacreux, boursicoté.com. On fait une petite pause dans Tout pour investir sur BFM Business et puis on revient aux pratico-pratiques. On ouvre la boîte à outils et on va parler transmission. Comment ajuster un petit peu son programme de transmission d'entreprise, notamment en fonction des nouvelles dispositions du budget 2026. Christophe Goudal de CG Patrimoine avec nous dans une seconde. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Allez, on l'ouvre, cette boîte à outils. Cette boîte à outils, elle vous permet de transmettre votre capital, votre entreprise. Et on en parle avec Christophe Goudal de CG Patrimoine. Bonjour Christophe. Peut-être faire un point sur ce que la loi budgétaire 2026 a changé dans le processus de transmission. Il y a quelques leviers qui ont été actionnés, voilà. Et bon, rien d'essentiel, rien de structurel, mais enfin, il faut quand même être vigilant.
Tout à fait. Alors, peut-être en effet, pour parler de cession, transmission d'entreprise, premier point, faire un point sur la fiscalité actuelle.
Oui.
Un dirigeant qui souhaite céder son entreprise aujourd'hui va payer la flat tax qui a été en effet montée à 31,4% avec la loi de finances 2026 sur la plus-value. Mmh. Il peut également, s'il le souhaite, s'il a acquis les titres avant le 1er janvier 2018, il peut bénéficier, il peut opter pour le barème progressif, pardon. Mmh. Et dans ces cas-là, il a le droit à des abattements. Un abattement ordinaire de 50% sur la plus-value s'il détient les titres jusqu'à 4 ans, okay. Et 65% s'il détient les titres après 8 ans. Mmh. Il peut également bénéficier d'un abattement renforcé de 85% s'il détient les titres plus de 8 ans et s'il a acquis les titres de la société dans les 10 premières années de la société. Cet abattement, c'est important de le noter, ne joue que sur la plus-value. Les prélèvements sociaux seront toujours dus sur 100% de la plus-value.
D'accord.
Autre petit point peut-être, ce qui peut intéresser certains, en cas de départ à la retraite, on a le droit à un abattement de 500 000 euros sur la plus-value. Cet abattement de 500 000 euros n'est pas cumulable avec les abattements dont je viens de parler. Mmh. Ensuite, le dirigeant peut être amené à transmettre son patrimoine, bien évidemment. Et dans ces cas-là, les bénéficiaires, donc les donataires, vont payer des droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire.
C'est ça.
Et donc, lorsque, en fonction de la valorisation des titres qui ont été cédés, mais on arrive rapidement à des tranches marginales d'imposition à 30%, voire 41% et 45% lorsque la donation porte sur une valeur supérieure à 1,8 million d'euros.
Bon, en fonction de ça, on se fixe quelques objectifs précis.
Tout à fait.
Le premier, c'est transmettre son entreprise à ses enfants, par exemple. Donc là, acte Dutreil, et on peut détailler un petit peu comment ça se
passe. Tout à fait. Nous avions parlé il y a quelques semaines dans le cadre de la loi de finances 2026, justement. Absolument. Donc le pacte Dutreil permet aux dirigeants de transmettre à ses enfants la société avec un abattement de 75% sur la valeur de l'entreprise. Mmh. Et il peut même, s'il fait la donation des titres avant ses 70 ans, bénéficier d'une réduction de 50% sur les droits. L'entreprise doit être une activité commerciale, industrielle, bien évidemment. Quelques contraintes, donc il doit y avoir un engagement collectif signé par le dirigeant et les bénéficiaires dans les 2 ans avant la donation, et ensuite un engagement individuel qui a été porté à 6 ans par la loi de finances 2026.
Ok. Bon, là, au moins, on est clair.
Alors, et autre point, important, dans le cadre du pacte Dutreil, la loi de 2026 a également apporté une contrainte sur en fait les actifs qui bénéficient des 75%. Dorénavant, tous les actifs, comme les yachts, les métaux précieux, c'est important à noter, ne bénéficient plus de l'abattement des 75%.
Voilà, c'est quelque chose de très spécifique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le family buyout.
Tout à fait.
Alors, un peu comme dans le LBO, là, mais appliqué à la famille.
Exactement. En fait, c'est le family buyout, en effet, c'est une combinaison de donation-partage, pacte Dutreil et création d'une holding. Pour quelle raison le dirigeant peut mettre en place, en effet, ce qu'on appelle le family buyout? C'est lorsqu'il y a plusieurs enfants, un seul est destiné à reprendre l'entreprise et le dirigeant souhaite une équité entre ses enfants. Donc, en résumé, le dirigeant va faire une donation-partage et va donner tout ou partie des actions à l'enfant repreneur qui, lui, s'engage à verser une soulte à ses frères et sœurs. Donc, pour ce faire, l'enfant repreneur va apporter les titres reçus en donation à une société holding. Cette société holding va emprunter pour verser la soulte aux frères et sœurs. La société holding va pouvoir rembourser le crédit grâce aux remontées de dividendes, quasiment sans taxes, juste 5% sur le montant des dividendes de la société d'activité dans la société holding, qui permettra donc de rembourser le crédit pour verser la soulte. 2-3 petits points importants lorsqu'on met en place cette stratégie. Il faut déjà bien valoriser l'entreprise pour éviter quelques conflits familiaux.
Oui.
Et également faire attention à la capacité de distribution de dividendes de la société d'exploitation, parce que c'est elle finalement qui, grâce à la remontée de dividendes, va permettre aux dirigeants, enfin à l'enfant repreneur, de payer la soulte à ses frères et sœurs.
Eh oui, elle a un rôle essentiel, cette holding. Souvent, quand on a parlé de la fameuse taxe holding, on pensait holding financière pour chapeauter des grosses sociétés. Non, c'est au niveau familial et c'est un maillon essentiel du financement, surtout dans ce processus de transmission. Alors, la transmission du produit de cession de l'entreprise, Là, elle tombe sous le coup de ce qu'on appelle la donation-cession. On en avait déjà pas mal parlé, mais c'est quelque chose qu'il faut rappeler et qui est très précis.
C'est important parce que je le disais en introduction, le dirigeant, s'il ne prépare rien, il va vendre, il va payer. Bon, il a deux options fiscales, on l'a vu, il va payer des droits de donation. Finalement, la famille va être taxée à plus de 50% sur le fruit de la cession. Tout simplement faire une donation-cession, ça veut dire le dirigeant donne tout ou partie des titres à ses enfants. Cette opération de donation, donc les enfants bénéficiaires vont payer ce qu'on appelle donc les droits de mutation à titre gratuit, les frais de notaire. Mmh. Et cette opération permet de purger la plus-value sur les titres. Donc, schématiquement, le dirigeant donne tout ou partie des titres à ses enfants, à une valeur de 100 par exemple. Dans la foulée, les titres sont vendus à la même valeur. Mmh. Donc, ils auront payé des droits de mutation sur la valeur des titres, mais il n'y aura pas d'impôt à payer sur la plus-value. Donc la famille fait une économie importante. On a fait un chiffrage sur une entreprise d'à peu près 5 millions d'euros. Je schématise, il y a à peu près 1 million d'euros en plus dans la poche de la famille si on fait une donation-cession.
D'accord. Oui, donc
le dirigeant peut également choisir d'optimiser cette donation. Donc plutôt que de faire une donation en pleine propriété des titres, il fait une donation, ce qu'on appelle uniquement de la nue propriété. Mmh. Cette nue propriété va être valorisée en fonction de l'âge du donateur, donc du dirigeant. Par exemple, à 62 ans, la nue propriété vaut 60%. Ce qui veut dire simplement, c'est que les enfants, enfin les héritiers, les donataires ne paieront des droits que sur 60% de la valeur. Et le dirigeant conservera l'usufruit du fruit de la cession, ce qui lui permettra d'avoir des revenus complémentaires à la retraite, par exemple.
Bon, on termine, il nous reste une minute. L'apport cession. Ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel.
La possession, intéressant lorsqu'on souhaite développer son patrimoine et préparer la transmission. Je vais faire vite. Le dirigeant apporte les titres à une holding. La plus-value est en report d'imposition. Deux cas de figure. La holding vend les titres avant 3 ans ou après 3 ans. Si elle les vend après 3 ans, aucune contrainte. Si elle les vend avant 3 ans, le dirigeant a l'obligation de réinvestir 70% du montant de la cession dans une activité économique ou dans un fonds éligible à l'article qui régit la possession, qui est le 150-0 BTR.
Bon, écoutez, là, parfait. Réécoutez tout ça en podcast, en replay, c'était vraiment très très clair et très précis. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir pour justement faire le point sur ces trucs qui ont un petit peu changé à la marge.
Pas assez, malheureusement, assez.
Mais voilà.
Les gens, très souvent, on le voit encore, cèdent et donnent.
Allez voir les pros. Il y a quand même une chaîne de valeur à conserver et qui est vraiment essentielle, surtout lorsqu'il est question de patrimoine familial. Merci infiniment, merci. Christophe Goudal, d'avoir été avec nous, CG Patrimoine. Et à une prochaine fois. Tout de suite, on va parler taux, bien entendu.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Et on est avec Arnaud Gian de BlackRock. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on le disait en sommaire, BlackRock, grand expert des taux, grand expert des fonds. Donc là, double expertise, on va parler des fonds obligataires. Oui, pourquoi ? Parce que ça fait plus de 10 ans que ça faisait plus rien. Et que là, pontification de la courbe des taux, on vous en parle beaucoup, différence entre taux courts et taux longs, ça fait d'ailleurs la solidité du secteur financier, du secteur bancaire notamment, mais ça rend beaucoup plus intéressant les fonds obligataires en ce moment. Et donc, quand on cherche à diversifier, ça devient non seulement le fixed income, comme on dit, ça devient quelque chose qui assure un support, mais qui devient dynamique en ce moment. Et c'est peut-être le moment de revoir les choses sous l'œil de l'actualité.
Tout à fait. En fait, on retrouve les caractéristiques du fixed income et on retrouve un peu l'âge d'or du fixed income. Ça, c'est comme vous l'avez indiqué, 10 ans, qu'on n'était pas dans un scénario dans lequel on a ce qu'on appelle des taux réels. Mmh. Donc, en fait, qui est une sorte de gain de pouvoir d'achat positif à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis environ 10 ans. On avait effectivement une petite parenthèse après le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, il y avait une correction, mais avec en fait des taux qui étaient assez attractifs sur la partie courte de la courbe.
Oui, voilà.
Et qui en fait était une parenthèse, entre guillemets, le temps de normaliser le niveau d'inflation. Mais on a de l'inflation qui est relativement maîtrisée, en tout cas pour l'instant. On a des taux qui en fait se sont pontifiés et qui sont plus intéressants. Et donc la différence entre les deux est extrêmement attractive. On retrouve en fait cet âge d'or. En fait, je vais faire un tout petit peu de pédagogie parce que souvent on oppose des actions et les obligations dans une construction de portefeuille. Et on dit les obligations, c'est moins risqué que les actions. Et 2022 nous donne tort sur cette théorie. Ouais. Et je voulais juste réexpliquer en fait que c'est en fonction de la maturité de ses engagements. Si par exemple je vous prête de l'argent Antoine à 30 ans, le risque est à peu près similaire à ce qu'on co-investisse et que je prenne part à votre destin entre guillemets.
Oui, c'est à peu près
ça. Par contre, je vous prête pour un mois, ça n'a plus du tout le même risque porté.
La prime de risque n'est pas la même, bien sûr.
Effectivement. Et donc du coup, en fait, on a sur cette partie très longue de la courbe, les engagements très longs, on a un risque qui est assez important. On a une volatilité qui est assez forte sur les taux depuis cet épisode de 2022.
Bien sûr.
Et donc, on n'est pas en train de dire que cet âge d'or, il doit être positionné sur la partie la plus risquée.
Ouais.
Par contre, quand on regarde le milieu de la courbe, quand on regarde des engagements plutôt à 5 ans, qui en fait représentent l'essentiel de ce marché obligataire, puisqu'en général, on emprunte sur des durées allant de 5 ans à 10 ans, mais on est à peu près dans ces eaux-là, on se retrouve en fait avec une volatilité qui est maîtrisée et des rendements qui sont très intéressants. Et donc, quand on fait le rapport entre le rendement et ce risque-là, on est sur quelque chose de très attractif par rapport à toutes les autres catégories, et donc un attrait qui est très important en ce moment.
Malgré tout, c'est vraiment, encore une fois, la maturité, la qualité de la dette qui va tout faire, dans le sens où on pourrait se dire, oui, les rendements deviennent attractifs, mais enfin, on a quand même une sacrée volatilité. Sur le 10 ans français, par exemple, on a eu 10 points de base de volatilité sur la séance d'hier. Ça s'agite, et c'est là aussi que revient au premier plan votre observation sur faut pas opposer action et obligation. Ça peut être un marché volatile, mais il faut être sélectif sur la maturité.
Exactement. La maturité, en fait, va dicter le niveau de risque associé à l'investissement. Et donc, disons, on est déjà sur un temps assez long en termes de risque. Donc j'évoquais 5 ans, en fait on appelle ça le belly of the curve.
Oui, c'est ça.
Vraiment le ventre mou, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est assez intéressant parce que vous parlez de la partie de l'OAT, du 10 ans français. Et en fait, quand on regarde le monde des entreprises, donc on appelle ça le corporate bond dans l'univers obligataire, et les emprunts d'État, on avait toujours en fait les emprunts d'État qui étaient plus ou moins la partie sans risque, parce que effectivement avec capacité de remboursement plus attractive. Et en fait, aujourd'hui, on peut débattre de cette partie-là. On a des entreprises qui sont mieux notées que certains émetteurs d'État.
Tout à fait.
Et en fait, quand on regarde la partie entreprise, et notamment entreprise de bonne qualité, on a depuis le Covid et depuis la remontée des taux à court terme, des entreprises, marché des entreprises, qui est beaucoup plus saine que par le passé. Donc, le niveau de levier à l'intérieur de l'entreprise est beaucoup plus faible. Donc, on a des entreprises qui sont de meilleure qualité, qui ont un bilan beaucoup plus solide. Et donc, lorsqu'on va essayer d'extraire en portage du rendement, et donc dans lequel on a ajouté à la partie sans risque un risque de crédit, mais qui est très maîtrisé.
C'est limité, oui.
On arrive en fait à avoir un investissement encore plus attractif. Donc, on va privilégier aujourd'hui plutôt ce gisement des entreprises, donc des émissions d'entreprises de bonne qualité et même dans une certaine mesure à haut rendement, avec cette notion de je vais pouvoir avoir un rendement supérieur et un rendement relatif au risque pris beaucoup plus intéressant.
D'accord, mais c'est justement ce que vous dites sur le haut rendement est intéressant, le high yield comme on le dit. Parce que là aussi, il y a des flux. Enfin, c'est une classe d'actifs qu'on regarde plus comme un investissement qu'on fait vraiment, vraiment sur le côté et sans s'y engager trop, parce que voilà, les courbes sont très fortes, mais très risquées. Non, le high yield, on l'arbitre au milieu d'autres actifs obligataires pour faire une moyenne de performance, et ça marche.
Ça marche. En fait, il y a donc deux phénomènes. Il y a le premier phénomène, donc j'expliquais, en fait, les entreprises ont déjà un niveau de levier qui est plus faible. Et donc, du coup, en termes de risque, elles sont beaucoup plus maîtrisées que par le passé. Et il y a un deuxième aspect, c'est que ce type d'entreprise emprunte sur des durées beaucoup plus courtes que les États ou que les entreprises de très grande qualité et qui sont très grosses par nature, avec des cycles de vente beaucoup plus longs. Et donc, du coup, on a le risque de taux que j'évoquais en début, qui est assez maîtrisé, puisqu'on parle d'horizon de prêt. On parle de prêt d'environ 3 à 4 ans en moyenne sur ce haut rendement. Et en plus de ça, on a des entreprises qui se sont solidifiées. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a, si vous voulez, quand on parle de fonds ou ETF, on va avoir la catégorie notamment des ETF qui sont assez ciblés. Donc, on va pouvoir investir sur, donc j'évoquais, du 3 à 5 ans, voilà, en fonction de la maturité. On va pouvoir investir sur une certaine devise, on va pouvoir investir sur certaines typologies d'entreprises. Et on a aussi des ETF actifs, flexibles, qui ont beaucoup d'attrait, et dans lesquels, en fait, j'ouvre mes chakras, j'ai envie de dire, et j'augmente, en fait, la boîte à outils, dans lesquels on a un marché classique, plutôt emprunt d'État et emprunt d'entreprise, et je vais pouvoir faire un peu de haut rendement. Je vais pouvoir faire aussi de la dette émergente, très très bien fonctionné l'année dernière,
tout à fait.
Qui en couple rendement risque est quelque chose d'additif, ou alors des segments type sécurisés, donc on parle de CLO, donc ça c'est très technique, donc je dis pas en fait qu'il faut pouvoir arbitrer et aller de l'un à l'autre, mais en fait dans ces gestions actives très flexibles, on va pouvoir abaisser le niveau de risque en allant chercher de la diversification au sein de tout l'univers de ce marché-là, et pouvoir viser un certain rendement qui, aujourd'hui, est très attractif par rapport au niveau de l'inflation et par rapport à la croissance attendue dans notre zone euro.
Mais oui, là aussi, la diversification, c'est le secret, mais on n'en sort pas. Et c'est juste d'un mot, est-ce que vous sentez une forme de friction sur les marchés de taux en ce moment, issue d'éventuelles inquiétudes autour de ce phénomène de la dette privée aux États-Unis? Ou est-ce que, pour l'instant, il n'y a pas de signe tangible du fait que le marché se crispe ou que la demande se crispe sur les produits obligataires?
Non, on a effectivement deux marchés qui sont très très distincts. Le marché américain est quand même très différent du marché européen.
On est bien d'accord.
Et au-delà de ça, en fait, le phénomène qu'on a pu voir sur le marché du crédit américain s'est effectivement amplifié en termes de demande de vente, mais pas forcément vraiment des crispements comme on l'appelle du marché professionnel. Donc en fait c'est plutôt en fait comme souvent en fait le marché des particuliers qui du coup au travers de certaines données et certaines news vont pouvoir réagir ou des fois surréagir, mais tout est relativement sous contrôle, même aux États-Unis. Et en Europe, on n'a absolument pas du tout la même configuration.
C'est l'inconvénient, mais aussi l'avantage des boîtes noires, c'est que ça reste dans la boîte. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle un petit peu ce phénomène. Merci infiniment, Arnaud Gian de BlackRock. Un point très, très complet sur les fonds taux, les fonds obligataires, à retrouver évidemment en replay et en podcast. C'est un outil essentiel de diversification en ce moment, lui-même diversifié à l'intérieur. On va terminer cette émission dans quelques secondes après la pause pub autour du marché de l'art. Restez à l'écoute de Tout pour investir.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Dans le coffre-fort, il y a aussi des œuvres d'art. Et c'est évidemment une solution d'investissement déjà fructueuse. Et puis ensuite, un investissement passion incontournable. Ophélie Guiraud de la Maison Agut, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous. On va parler d'un mouvement, alors que personnellement, je ne connaissais pas, avec des artistes que je ne connaissais pas non plus, mais qui s'appelle le support surface. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Puis on va voir quelques œuvres là derrière nous. C'est quoi ça, le support surface?
Voilà, le support surface, c'est un mouvement qui est né au milieu des années 60, donc 65-66, qui n'a pas duré longtemps parce que il s'est terminé en 72, mais qui est très important parce que il est considéré comme le dernier mouvement qui a vraiment marqué la peinture contemporaine en France.
Alors ça, c'est étonnant. Et en plus, c'est comme le phénomène des collections, le phénomène des choses en série. C'est-à-dire, s'il y a un début et une fin, ça reste un actif qui est super précieux, quoi, en fait, parce qu'on peut voir son évolution sur très peu de temps et juger de la qualité des tableaux en fonction vraiment d'une période très courte.
Alors, c'est vraiment le mouvement en tant que tel qui est court. Après, le mouvement perdure, en fait, à travers la pratique des artistes qui en ont fait partie.
Quand même,
Exactement. Donc, par exemple, une des figures de proue de ce mouvement, Claude Viala, dont nous aurons une image pendant l'émission.
On commence à les voir, là.
Voilà, exactement. Claude Viala a plus de 60 ans de création. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, le support surface?
C'est ce que j'allais vous dire. C'est l'art, c'est la peinture et c'est la sensibilité. Alors, en 3D, déjà.
Oui.
C'est-à-dire, il y a la matière, il y a l'épaisseur, il y a les trois dimensions, vraiment.
Et exactement, c'est vraiment c'est en opposition avec l'art traditionnel, c'est une réappropriation déjà de l'art abstrait, en opposition à d'autres mouvements des mêmes années, comme la figuration narrative ou les nouveaux réalistes. Là, c'est vraiment l'art abstrait, mais aussi la décomposition de l'art traditionnel à travers à la fois le support et la surface. Donc, pourquoi le support? Ce sera vraiment le support, c'est la toile, où l'artiste vient peindre. Les artistes de ce mouvement vont vraiment la décomposer. Par exemple, Claude Viala, dont on parlait tout à l'heure, lui va peindre sur des objets qu'il va trouver autour de lui.
Et donc, réinventer à sa sauce. Ouais.
Exactement. Donc, par exemple, des bâches de tente. On a eu une fois un cul de fauteuil. Donc, un cul de fauteuil, c'est vraiment la tapisserie d'un fauteuil qui a été enlevé. Et ensuite, il a peint dessus. Et puis après, d'autres artistes vont la tresser, totalement la réinvestir, cette surface. Et puis, ce support. Et puis ensuite, il y a le travail sur la surface. Et parlons encore de Claude Viala, parce que c'est très représentatif de ce mouvement. Lui, il va décider de reproduire un seul motif. Donc, ça fait 60 ans qu'il reproduit le même motif, donc parfois même jusqu'à l'épuisement.
Mais c'est sa marque de fabrique, c'est son objet, c'est son gimmick.
Exactement, tout en jouant avec le support et puis la couleur. Donc, ce sont des œuvres très colorées.
Donc voilà, c'est ni de la sculpture ni de la peinture, c'est tout en même temps, quoi.
Finalement. Exactement.
Toute la dimension de l'objet.
Voilà, et le support et la surface sont finalement très liés.
Bon. Claude Viala, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres grands noms de ce mouvement à suivre et qui suscitent l'intérêt sur le marché de l'art là en ce moment?
Oui, tout à fait. On a par exemple Daniel Dezeuse qui fait partie de ce mouvement. Lui a moins d'œuvres sur le second marché, mais est tout à fait est tout aussi intéressant et dans ce mouvement. Et on a également Louis Kahn, on a Pincement, de nombreux artistes qui ont pris part à ce mouvement.
On est sur quels ordres de prix à peu près?
Alors, par exemple, pour Claude Viala, on a un record mondial en 2019 à 90 000 euros. Pour Louis Kahn, pour de la sculpture, on est plutôt à 110 000 euros. Après, je parlais de Patrick Saïtour, on est à 20 000 euros. Daniel Dezeuse, on est à un petit peu moins de 20 000 euros également. Voilà, donc il y a tous les prix. Et puis après, c'est ce que je vous dis quand je viens. En fait, il y a beaucoup de techniques. Et c'est vrai que, par exemple, pour Viala, quand on va vers une lithographie ou un monotype, on sera plutôt à quelques centaines d'euros. Tandis qu'une œuvre sur papier, quelques milliers d'euros. Et puis ensuite, pour ces grandes bâches de tente ou ces culs de fauteuil, on sera à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Alors, malgré tout, c'est vrai que c'est un mouvement qui est regardé de près, qu'on peut vraiment situer sur une échelle temporelle vraiment réduite. Donc, c'est ça qui le rend intéressant, mais aussi qui provoque des prix relativement stables. Si on regarde bien l'évolution sur ces dernières années, ça évolue pas trop, il y a pas de flambée, c'est pas très volatile en fait comme marché.
C'est assez peu volatile. Alors on remarque deux choses quand on regarde la cote, c'est que déjà les gros prix, donc quand on voit les œuvres qui sont vendues à plus de 40 000 euros pour par exemple Claude Viala, on voit à la fois des prix. Ce type de prix dans les années 2020 et dans les années 90. Donc on voit que l'intérêt, ça fait même plus de 20 ans, est toujours très présent. Et ce sont des artistes qui suscitent l'intérêt. Après, ce qu'on remarque, c'est que dans les années... Le chiffre d'affaires pour cet artiste en vente aux enchères a augmenté depuis 2019, après ce fameux record mondial. Mais on voit aussi une augmentation du nombre d'œuvres en vente. Donc voilà, c'est tout un...
Un écosystème, ça s'auto-entretient. Et est-ce qu'il y a des artistes qui ne sont pas forcément connus maintenant, mais qui méritent justement qu'on les regarde? parce que ça pourra prendre de la valeur plus tard, un petit peu dans le, dans, dans le même mouvement.
Exactement, il y a des artistes en fait qui ont beaucoup gravité autour de ce mouvement et puis de ces problématiques. Par exemple, dans la vente du 2 avril, on présente une œuvre de Claude Viala et en face, on présente trois très belles œuvres de Michel Duport dont on a les visuels là. Et Michel Duport ne fait pas partie du mouvement Support Surface, mais il a souvent exposé avec Claude Viala et a toute cette réflexion autour du support, on le voit bien parce que c'est aussi en 3D. Et
Oui, c'est vraiment l'inspi du... Bah, écoutez, c'est super intéressant. 2 avril, vente Support Surface, donc chez Agus.
Alors, vente art contemporain avec des œuvres de Support Surface, dont Claude Viala, Daniel Dezeuse et puis Michel Duport qui...
Ok, ben, tout ça à la maison Agut, bien entendu. Au lieu de rendez-vous pour les amateurs d'art, du marché de l'art et puis de l'investissement passion et puis tout simplement des amoureux de la peinture, de la sculpture et de tous ces mouvements qui font le marché de l'art en ce moment. Ophélie Guiraud de la Maison Agut, merci infiniment
de
nous avoir fait découvrir ce mouvement Support Surface, très intéressant. Je vous laisse dans les mains expertes de Marie Cœur de Roi pour les experts de l'IMO. Je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. TP Il revient demain.
Tout pour investir sur BFM Business.